Europe 1. Europe 1.
14h, 15h.
On de la traconte.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, un récit assez intime, celui d'une femme confrontée à l'âge de 38 ans à un cancer du sein, comme 50 000 femmes chaque année dans notre pays. C'est donc un témoignage parmi d'autres. Je ne pense pas qu'il y ait une manière universelle de réagir à une pareille annonce, mais sans doute y a-t-il des points communs. Et cette femme, eh ben elle est là, elle est juste en face de moi. Bonjour Marjorie Jacquet.
Bonjour Christophe.
Pour écrire cette histoire, je me suis appuyé sur votre livre, livre que vous avez publié l'année dernière chez Max Milo, « Les cheveux dont je rêvais ». C'est le récit d'un bouleversement, c'est le récit d'une vie qui bascule, de la perte au fond d'une insouciance. Et c'est aussi le témoignage d'une Parisienne qui évolue dans un milieu assez privilégié et qui a une conception de la vie assez délurée. Vous travaillez à l'époque dans la mode, la vie dont vous veniez avant ce cancer est aussi assez amusante à raconter. Je me suis régalé, vous êtes une séductrice, vous êtes une croqueuse d'hommes. Bref, une femme face à un cancer. Voici l'histoire du jour que j'ai écrite avec Marion Sauveur. Réalisation Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelatte.
Cette histoire débute à la fin du mois de mars 2014, dans la salle d'attente d'un gynécologue. Marjorie, 38 ans, dont je vais vous raconter l'histoire, a pris rendez-vous pour se faire renouveler son ordonnance de pilule. Rien de plus. Je vais vous lire les premières lignes de son livre. Vous allez tout de suite comprendre à qui vous avez affaire. Ma gynéco a du retard. Chaque fois, c'est pareil. Ça fait au moins une heure que je l'attends. Ma gynéco est très sympa, mais... elle est bavarde. C'est pour ça qu'elle est constamment en retard. Elle pose toujours des questions indiscrètes du style « Combien avez-vous eu de partenaires sexuels ces dernières semaines ?» De quoi elle se mêle ? La dernière fois que je l'ai vue, elle a trouvé une capote coincée depuis 3 jours dans mon vagin. La honte, souvenir d'un garçon dont le corps taillé dans du marbre rappelle celui des statues grecques. Bientôt je ne serai plus désirable. Il faut profiter de sa beauté et de sa jeunesse avant qu'il ne soit trop tard. Vous voyez, le genre de nénette, 38 ans mais l'impression d'en avoir 20, célibataire bien sûr, sans enfant, avec un goût prononcé pour les jeunes garçons. Vous voyez, ceux qui ont le ventre plat, la peau douce et tonique, et tant mieux s'ils ont des biscottos. Dans son milieu, il n'en manque pas des beaux garçons. Marjorie est attachée de presse dans la mode, à Paris. Alors bien sûr, il y a quelques gays, mais les autres... si ça peut faire son 4 heures et qu'ils sont bien fichus, elle prend. Marjorie est une femme libre. Et donc aujourd'hui, elle a rendez-vous avec sa gynéco qui, avec une heure de retard, vient d'apparaître à la porte de la salle d'attente. Bonjour Madame Jacquet. On y va ? Oh, Madame Jacquet. Marjorie n'aime pas qu'on lui dise « madame ». Ça fait vieille, « madame ». Elle se déshabille, elle se pèse, et la gynéco commence par une palpation des seins. Contrôle de routine. De tout petits seins d'ailleurs. Bonnet A. Elle regarde le plafond, elle pense à son déjeuner, elle a faim. Ah, je sens une petite anomalie. Un kyste sans doute, rien de grave. Mais le mieux serait de passer une mammographie. Juste par précaution. Ok. Marjorie prend l'ordonnance et elle la met en boule au fond de son sac. Et elle file à son boulot, son bureau et place des Victoires, au centre de Paris. Et elle enchaîne. Sa vie est un tourbillon. 10 heures de boulot et le soir, les cocktails avec les clients, les journalistes à qui il faut fourguer le dernier jean qui fait remonter les fesses. C'est ça, son métier. Et après, en général, elle ne dort pas seule. Et si par hasard elle rentre seule, il lui arrive de pratiquer le sexe virtuel, figurez-vous. Un certain Rémi qu'elle a rencontré sur un site. Sauf qu'il est à Marseille et elle à Paris. Ce qui ne les empêche pas de se chauffer via Internet. Quand je vous disais qu'elle était libre, elle est libre. Et c'est comme ça que pendant 2 mois, Marjorie oublie son ordonnance pour une mammographie. 2 mois, alors que sa mère l'appelle tous les jours pour lui dire.
Tu l'as passé, ta mammographie, ma chérie.
Alors finalement, un lundi matin du mois de mai, elle y va. Alors, bon, le module a les bords bien délimités, c'est pas trop mal. Par précaution, je vais vous planifier une biopsie. On prend pas de risque en matière de cancer du sein. D'accord ? La biopsie a lieu le lendemain. Ça consiste à introduire une longue aiguille dans le sein pour prélever un petit morceau du kyste. Ça fait très mal. À ce moment-là, dans quel état seriez-vous, vous ? Inquiète ? Angoissée dans l'attente des résultats ? Eh bien, Marjorie, pas du tout. Pour elle, c'est un kyste bénin. On lui fait faire tous ses examens par précaution. Elle a 38 ans. Elle ne va pas avoir un cancer à 38 ans. Deux semaines après la biopsie, elle reçoit un texto de sa gynéco, genre injonction. « Bonjour, je vous attends dans mon bureau demain à 17h. » Le lendemain à 17h, la gynéco s'assoit en face d'elle. Elle a un air grave. « Madame Jacquet, j'ai une mauvaise nouvelle. Vous avez un cancer du sein. » Marjorie ne réalise pas tout de suite à quel point sa vie bascule là, pile à ce moment-là.
Europe 1, on de l'être raconte.
Je vous raconte aujourd'hui l'histoire de Marjorie Jacquet. Mais ça pourrait être la vôtre. C'est l'histoire d'une femme à qui on dit à 38 ans, « Vous avez un cancer du sein ». Et elle sera là tout à l'heure, Marjorie Jacquet. Je me suis inspiré du livre qu'elle a publié l'année dernière, « Les cheveux dont je rêvais » aux éditions Max Milo. Je vous ai raconté qui elle était, attachée de presse dans la mode à Paris, une jeune parisienne délurée, dévoreuse de vie, croqueuse de garçons plus jeunes qu'elle, qui pense qu'elle a toujours 20 ans. Sauf qu'aujourd'hui, elle sort de chez le médecin, un peu sonnée. Elle a un cancer du sein. Et là, c'est comme si son insouciance s'envolait d'un coup. Elle rentre chez elle et elle se barricade et elle pleure. Et ensuite vient le rendez-vous chez l'oncologue. On se sent seul dans ce genre d'épreuve. Alors elle a fait venir sa mère du Havre. Le médecin est un spécialiste du cancer du sein, elle a de la chance. Il les reçoit dans un bureau minuscule. 2 chaises, une table d'examen, un appareil pour lire les radios, c'est tout. Et d'entrée, il lui palpe les seins et il commente à voix haute pour son interne. Alors, nous avons là une tumeur, mais non palpable. Non palpable. Donc la gynéco s'était trompée quand elle a senti quelque chose. Elle s'est trompée, mais elle lui a sauvé la vie. Alors voilà, madame, le programme que je vous propose. Une chirurgie, pour commencer. L'ablation de la tumeur sur votre sein droit. Et puis dans la foulée, 8 séances de chimiothérapie qui seront espacées de 3 semaines chacune. Et après, de la radiothérapie. Et ça devrait passer. En face de lui, Marjorie est en pleurs.
J'ai appris que j'allais être chauve et que j'allais être stérile. Et donc j'ai été reçue par le professeur Greenberg qui a pu congeler 3 ovocytes. Non, j'ai pas de désir d'enfant, mais j'ai préféré quand même le faire parce que j'avais peur de regretter. Si un jour j'ai envie d'en avoir, j'ai le droit de les utiliser, je crois, jusqu'à l'âge de 46 ans.
De tout ce qui l'attend, vous savez ce qui la perturbe le plus ? C'est de savoir qu'elle va perdre ses cheveux. Son arme de séduction, ses longs cheveux, qui boucheront bientôt la bonde de sa douche. Alors figurez-vous qu'elle va dans une boutique de perruques, tout de suite. Genre alignement de perruques sur une étagère, la plupart en synthétique. Une horreur. Elle en essaie une et elle et la vendeuse éclatent de rire. On dirait qu'elle a un poulpe sur la tête. On est à 3 jours de l'opération. Maintenant que vous la connaissez un peu, qu'est-ce qui peut consoler Marjorie ? J'ai l'impression de vous entendre tous hurler « Un garçon !» Bien sûr. Bah oui, un garçon. Un ventre plat, des pectoraux. Elle en a un en vue. Un Marocain, Hamid. Ça fait quelque temps qu'elle le chauffe sur Tinder. Si vous n'êtes pas au courant, c'est une application de drague qu'on installe sur son portable. Demandez à vos enfants et à vos petits-enfants, ils vous expliqueront. Donc, Hamid. Hamid l'embrasse dans le cou. Hamid la fait frissonner. Ça la console. Ça marche encore. Restera-t-elle cette femme désirable ? C'est toute la question. La veille de l'opération, Marjorie vérifie qu'elle a de bonnes copines.
Coucou Marjo, ça va ? Dis donc, pour tes cheveux, je veux pas te voir avec une pieuvre sur la tête. Alors figure-toi que j'ai appelé John Nolay, tu sais le coiffeur. J'ai pris rendez-vous pour toi.
C'est une blague ?
Non, pas du tout. J'ai même créé une cagnotte. On va te l'offrir, ta perruque.
Et le lendemain donc, direction l'hôpital Saint-Louis, à Paris. Une chambre à 2 lits, au 6e étage. 50 cm entre les 2 lits. Un placard en formica et un ventilateur qui grince. Et dans la salle de bain, un lavabo et des toilettes. Et une seule douche pour tout l'étage. Ambiance 1960. Mais médecine de qualité. Le lendemain, Marjorie est de retour à la maison. Avec en tête la prochaine étape, la chimio. Et donc la perruque. C'est avec sa copine Anne-Charlotte qu'elle va au rendez-vous avec le fameux John Nolay, le coiffeur des stars. Le monsieur occupe une suite dans un grand hôtel rue de la Paix. Ça coûte bonbon, ça, au Monopoly. La suite 101. Des malles Vuitton, des livres, des dessins, des photos, des objets rapportés des 4 coins du monde, et une bougie allumée. Et lui, John, barbu, les yeux clairs, les cheveux longs, bel homme.
Alors, ma jolie,
quels seraient les cheveux dont vous avez toujours rêvé ?
Bah, des cheveux très longs, jusque sous les seins.
Marjorie est venue avec des photos. John voit tout de suite ce qu'il va lui proposer.
Jane Birkin, années 70, c'est exactement ça qu'il vous faut.
Banco. Et les voilà qui trinquent au champagne à sa future perruque. Et le soir, rendez-vous surprise dans un bar, tous ses amis sont là et chacun d'entre eux lui offre une poignée de ses cheveux. Jusque-là, entre nous, elle a de la chance, Marjorie. Je pense à toutes celles qui n'ont pas les moyens de s'acheter une perruque, même en nylon. Celles qui nouent un fichu en attendant que ça repousse. Mais ce qui l'attend maintenant, la chimio, va mettre toutes les femmes à égalité.
Europe 1, on te la raconte.
Je vous raconte aujourd'hui l'histoire de Marjorie Jacquet. L'histoire d'une Parisienne qui brûle la chandelle par les deux bouts et à qui on dit à 38 ans « Vous avez un cancer du sein ». Elle sera là tout à l'heure, Marjorie Jacquet. Je me suis inspiré du livre qu'elle a publié l'année dernière, « Les cheveux dont je rêvais » aux éditions Max Milon. Je vous ai raconté qui elle était, attachée de presse dans la mode à Paris, dévoreuse de vie, croqueuse de garçons, qui pense qu'elle a 20 ans. Nous en étions juste après l'opération, l'extraction de la tumeur sur le sein droit. Marjorie va maintenant attaquer les séances de chimiothérapie. Et retour donc à l'hôpital Saint-Louis à Paris, dans une chambre jaunasse. Marjorie est terrorisée. L'infirmier commence par lui poser un casque bleu sur la tête, rempli de glaçons.
Ne vous inquiétez pas, hein, c'est pour éviter la chute des cheveux. Ça ne marche pas, mais ça vaut le coup d'essayer, non ?
Marjorie ferait n'importe quoi pour que ses cheveux ne tombent pas. L'infirmier connecte la perfusion au cathéter qu'on lui a placé au préalable, juste au-dessus de la poitrine, et le liquide écarlate se met à couler. Ça dure 1 heure et demie. Et quand c'est fini, quand elle se lève, elle a des vertiges. Et elle va passer la semaine qui suit chez papa-maman, au Havre, dans sa chambre d'adolescente. Autant vous dire que pour la femme indépendante qu'est Marjorie, c'est une épreuve de plus. Une semaine avec une sorte de gueule de bois, la porte de la chambre toujours fermée parce qu'elle ne supporte pas les odeurs de la maison. Et notamment cette odeur de café. Pouah ! L'oncologue l'a prévenu. Les cheveux. La chute des cheveux interviendra 15 jours après la première injection. Alors tous les jours, elle se met devant la glace et elle vérifie. Elle tire sur les cheveux. Pour l'instant, tout va bien. Au bout d'une semaine, retour à Paris et un soir, elle reçoit un texto d'un mec qu'elle a rencontré il y a 2 mois. Il sait qu'elle est malade. Mais il lui écrit « J'ai envie de te voir, mais tu es malade. » Honnêtement, elle n'a pas envie de le voir. Elle a la tête ailleurs, mais une petite voix lui dit que bientôt elle n'aura plus de cheveux. Que ce garçon, c'est peut-être la dernière occasion avant longtemps. Alors elle dit oui, et elle l'attend excitée comme une puce. Mais le goujat ne viendra pas. Le cancer lui a fait peur. Le lendemain, c'est le grand jour. Elle va récupérer sa perruque chez le fameux John. Il la lui installe. Elle est subjuguée. Elle n'a jamais eu d'aussi beaux cheveux. La frange lui donne un air malicieux. Le châtain, ma foi, lui va bien. Mais bon, pour l'instant, elle n'en a pas besoin. Elle rentre, elle la pose sur la table de nuit. On verra plus tard. Le lendemain matin, elle est fiévreuse. Elle a une angine et une chute de ses globules blancs. Merci la chimio. Et elle reste au chaud, elle s'allonge sur son lit. Et c'est quand elle se relève qu'elle voit les cheveux sur son oreiller.
Pour détruire les cellules cancéreuses, il faut aussi détruire les cellules qui sont saines. Évidemment, ça commence par les cheveux. On perd aussi ses cils, ses sourcils. Donc là, on se sent complètement amputé de sa féminité. Et puis, on n'a plus ses règles, en fait. Donc, on est ménopausé chimiquement. On est stérile. C'est le sein aussi qui est touché. C'est quand même un attribut féminin, érotique, très puissant. Donc, on n'a plus de désir, plus de libido. Et c'est vrai qu'on se dit, mais en fait, qu'est-ce qui me reste de féminin ?
Elle a l'impression de partir en lambeaux, en lambeaux. Elle passe la main dans ses cheveux, c'est le cauchemar. Elle se lève, ses cheveux s'envolent. La première chose qu'elle fait, vous savez ce que c'est ? Elle efface sur son portable les applications de drague, Tinder et les autres. Elle se dit qu'à partir de maintenant, elle fait peur aux hommes. Elle pensait qu'elle aurait le courage de se raser le crâne. Mais toute seule, elle n'y arrive pas. Du coup, elle a une idée un peu dingo. Elle invite 2 copains et 2 copines à eux de la tondre. Avant qu'ils n'arrivent, elle gobe un anxiolytique pour calmer ses angoisses. Avec eux, elle boit un peu de vin blanc, mais honnêtement, bah, ça lui donne la gerbe. Ça aussi, il faut qu'elle y renonce. Dans la salle de bain, elle s'assoit sur le rebord de la baignoire. Elle ferme les yeux et l'un de ses copains lui passe la tondeuse sur tout le crâne. Et quand c'est fini, elle ne veut pas voir. Enfin, sans la perruque. Parce qu'avec la perruque, ma foi, elle se sent belle. Depuis 3 mois, elle craignait ce moment, mais ça va. Elle a fait le deuil de ses cheveux.
pousse à la mer en confiance. Elle enfile une tenue moulante et elle file à l'anniversaire d'un pote. Les gens sont adorables avec elle. « Oh ma chérie, tu es rayonnante !»« Oh la Marjo, qu'est-ce que t'as bonne mine !» Au début de la soirée, ça va. Mais plus le temps passe, plus elle se rend compte qu'elle n'a plus rien à voir avec tous ces gens. Tous ces amis-là, ça la gonfle. Elle pensait qu'elle pourrait mener une vie normale, mais en vérité, elle n'en a pas envie. Tout simplement, pas envie.
Europe 1, on de la traconte.
Je vous raconte aujourd'hui l'histoire d'une jeune femme, Marjorie Jacquet, attachée de presse dans la mode à Paris, confrontée à un cancer du sein à l'âge de 38 ans. Elle sera là tout à l'heure, bien sûr. Je me suis inspiré du livre qu'elle a publié l'année dernière, « Les cheveux dont je rêvais » aux éditions Max Milou. Je vous ai raconté la chirurgie et maintenant la chimio. Au début, elle pensait vivre comme avant, mais après la première séance de chimio, une réalité s'impose. Elle n'a plus envie de voir ses amis d'avant. Elle se recentre sur elle-même. Huit séances. Le cancérologue lui a programmé 8 séances de chimio. Et avant chaque séance, c'est toujours le même rituel. Cortisone, vernis pour protéger les ongles, patch anesthésiant pour le cathéter. Et c'est parti pour 1h30. Et après, Marjorie va systématiquement chez ses parents, au Havre. Une semaine enfermée dans sa chambre, en pyjama, sans télévision et sans musique. Elle ne veut voir personne. Elle regarde le plafond pendant des heures. Et la semaine d'après, retour à Paris. Au ralenti, elle est épuisée. Elle lit, ça pour lire, elle lit. Elle regarde des séries, c'est bien les séries, ça mange bien le cerveau. Et elle s'est mise à la cuisine, ça c'est thérapeutique. Et du coup, elle reçoit quelques amis à dîner. Et les hommes, alors? Les hommes qui comptaient tant avant. Pour être honnête, pour l'instant, séduire est au-dessus de ses forces. En plus, elle n'a plus de cils, plus de sourcils. Sa peau s'est desséchée, craquelée, fissurée. Elle se sent laide. Mais en même temps, elle a besoin d'affection. Alors, l'air de rien, elle se recolle sur un site de rencontre. Et elle tombe sur Nicolas, 35 ans, pour une fois pas un gamin. D'après ce qu'il écrit sur son profil, ils ont des centres d'intérêt en commun. Ça peut coller. Pourquoi pas ? Mais elle le prévient. Elle a un cancer. Elle porte une perruque. Elle a un cathéter. Pas de problème, je viendrai demain après-midi. Bon, le lendemain, il prévient qu'il aura un peu de retard. Un peu de retard, tu parles? Il n'est jamais venu. Le lâche. Et puis arrive la 8e et dernière séance de chimio en février. Elle y va avec Anne-Charlotte, sa meilleure amie. Et la séance se passe plutôt dans la rigolade. Mais quand l'infirmière la débranche pour la dernière fois, Marjorie s'effondre en larmes. Et puis après commence la radiothérapie. Et le 13 mars, elle fête ses 39 ans. Et là, elle se fait un petit cadeau. Elle appelle l'un de ses anciens rancards. Elle double scotche sa perruque pour qu'elle ne tombe pas. Elle se met sur son 31. Elle veut être la plus sensuelle possible. Ils sont au lit tous les deux. Ils font l'amour. C'est bon. Et soudain, une chaleur intense. Elle soulève les draps. Elle saigne. Les draps sont imbibés de sang. On ne l'avait pas prévenu. Ses muqueuses sont encore à vif. Elle est morte de honte. Et ce garçon, elle ne le reverra jamais. «
4 mois après la fin de la chimio, ses cheveux repoussent enfin. Dans tous les sens, frisés, plus sombres, mais ils repoussent. Et puis à un moment donné, il faut retourner au boulot. Et Dieu sait qu'elle l'aimait, ce boulot. Elle l'aimait. Mais elle n'arrive pas à reprendre ses marques. Elle essaye, hein. Pendant un an, elle essaye de reprendre sa vie là où elle l'avait laissée. Elle n'y parvient pas. Elle ne retrouvera pas sa vie d'avant. Le tourbillon de la jeune Parisienne pressée, la séduction en tête de gondole, le défilé des jolis garçons. Maintenant, elle a besoin de temps pour elle, pour lire, pour écrire, pour cuisiner, pour se promener.
Je pense qu'avant, je vivais un peu comme un automate. J'allais au bureau, comme ça, métro, boulot, apéro, sans me poser de questions. Et j'étais toujours un peu dans la recherche de la séduction, du regard masculin, en fait. Et aujourd'hui, déjà, je m'habille ou je me maquille pour me plaire à moi et plus aux garçons, en fait. Et je suis beaucoup plus à l'écoute de mon corps. Ça a été vraiment un élément déclencheur, le cancer. Ça a été une épreuve très difficile, mais aujourd'hui, je suis heureuse de la vie que je mène.
Aujourd'hui, Marjorie est en rémission, comme on dit. Tous les 3 mois, elle va voir son oncologue et elle sera officiellement déclarée guérie en juin 2019. Elle n'est plus attachée de presse dans la mode. Elle a monté une boutique sur Internet. Elle y vend des tapis berbères. À la dernière page de son livre, elle écrit « J'ai la sensation d'avoir basculé du monde léger et insouciant de l'adolescence à la vie d'adulte. L'impression d'être au seuil d'une nouvelle ère. Oui, j'ai changé. Car l'impression d'avoir touché la mort du bout des doigts vous confère une espèce d'assurance. La souffrance vous taille un nouveau mental de pierre. Je me sens pleine d'un sang nouveau, riche et armé pour faire face à toutes les situations. J'ai l'intuition qu'un avenir meilleur existe ailleurs. »
Europe 1, Christophe Ondelatte.
Voilà donc pour ce récit inspiré du livre que vous avez écrit, publié l'année dernière chez Max Minot, qui s'appelle « Les cheveux dont je rêvais ». Je vous propose, Marjorie, de reprendre les choses dans l'autre. Ça m'intéresserait bien, au fond, que vous jetiez un regard sur cette vie d'avant, de là où vous êtes maintenant, puisque votre vie a basculé, puisque vous avez changé. Comment vous la trouviez, cette vie d'avant? Était-elle futile?
Quand j'étais dans cette vie, je ne m'en rendais pas compte, en fait, et je pense que j'avais un rythme qui fait que je n'avais pas vraiment le temps de me poser de questions, en fait. J'enchaînais le travail, les amis, les sorties, et puis c'est ce qui me plaisait à l'époque, en fait. Ça correspondait à la vie. J'ai aucun regret, c'est la vie qui me plaisait, en fait.
Ni regret, ni honte, parce que
ah,
vous racontez les choses d'une manière extrêmement franche.
Non, aucune honte. Je pense que j'étais célibataire, donc je connais. Enfin, il y a beaucoup de jeunes femmes célibataires aujourd'hui. Peut-être effectivement davantage à Paris, peut-être plus qu'en province, mais qui mènent cette vie de femme libérée, en fait.
Et les applis de drague, avec du recul, c'était vain ou c'était bien?
Bah, je pense qu'en fait, c'est...
Donc ce sont des applis où on voit les hommes qui sont à proximité, hein.
C'est ça.
Les match, si ça match pour les deux, ça se passe le soir même.
Ou
le lendemain, ou la semaine prochaine.
Ou parfois ça se passe jamais. Hein.
Parfois c'est juste
du temps à, parfois aussi à parler sans voir parfois les personnes.
C'était vain?
Oui, en tout cas c'est...
Le bilan que vous en faites maintenant que vous avez tous
recul.
Oui,
c'est vain et c'est. Je pense pas qu'on puisse rencontrer quelqu'un de bien, en fait. Quelqu'un pour construire quelque chose, ça c'est. Je pense que ça n'arrive pas, en fait.
Mais comment se fait-il que vous n'ayez pas souhaité construire quelque chose à cette époque-là? Parce que 38 ans, certes, on peut avoir l'impression d'avoir 20 ans, mais en vérité, le compteur tourne. Donc tous les ans, il y a son anniversaire. On voit bien qu'on avance.
Mais non, moi, je voulais pas le voir, je crois. Non, j'ai toujours... Je suis restée 8 ans avec quelqu'un quand j'étais plus jeune, d'ailleurs, de 18 à 26 ans.
Donc,
voilà.
Oui.
Et après, en fait, moi, j'ai été quand même très marquée par cette rupture. Et après, j'ai pas eu de sentiments pour quelqu'un d'autre, en fait. Donc,
est-ce que c'est ce milieu dans lequel vous viviez, celui de la mode, qui est un milieu qui a une certaine légèreté,
oui,
avec peut-être une certaine légèreté des rapports humains. D'ailleurs, tout le monde s'appelle chérie dans la mode, tout le monde est ami, tout le monde se congratule. Est-ce que ce milieu, d'une certaine manière, était assez pervers et ne permettait pas de construire quelque chose de durable? C'est éphémère, la mode.
Oui, je pense, parce qu'il y a beaucoup, effectivement, dans la mode de femmes célibataires, de filles, de femmes célibataires d'ailleurs, ou de gays, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Et on privilégie sans doute ces relations sociales, en fait, qui on crée aussi des amitiés. Hein. Moi, j'ai créé des amitiés avec des journalistes, des photographes, des gens du milieu. Mais on est plus dans la légèreté, l'insouciance, dans l'amusement que dans la construction d'une famille. J'y pensais pas trop, en fait.
J'ai été bien intéressé quand même par le récit que vous faites avec beaucoup de franchise de cette vie-là et de votre goût pour les hommes plus jeunes que vous.
Oui.
Vous avez éclairci cette affaire-là, puisque
non,
donc ils avaient 20
peut-être
ans.
Que je vois.
38 et ils pouvaient avoir 20 ans. 21 à 22.
Oui, tout à fait, oui. Voilà. Non, mais c'était un goût purement physique, en fait. Hein.
Oui, plus c'est jeune, plus c'est voilà, musclé, plus le ventre est plat.
Pas forcément les muscles, mais le
la fraîcheur.
Oui, je crois, voilà. Plus ça.
La fraîcheur.
Et puis l'insouciance aussi, qui me renvoie, en fait.
Ouais. Et puis, ils ne s'attachaient pas. C'était prévu d'avance. Ils passaient, ils partaient.
Ouais.
Ils avaient une vie.
Oui.
et vous, une autre. On va marquer une pause, mm-hmm, et puis parler de cette palpation, de ce kyste que voit la gynécologue,
oui,
et qu'elle ne peut pas voir.
Non.
Et ça, ouais, c'est bien intéressant après la pub.
Europe 1, Christophe Ondelatte.
Je vous ai raconté aujourd'hui l'histoire de Marjorie qui est là en face de moi, qui à l'âge de 38 ans est atteinte comme 50 000 femmes en France chaque année par un cancer du sein. Et je me suis appuyé pour écrire cette histoire sur le livre Marjorie que vous avez publié l'année dernière chez Max Milo, Les cheveux dont je rêvais. Et donc il y a ce moment où votre gynécologue, vous allez la voir pour un renouvellement d'ordonnance de pilule, elle vous fait contrôle de routine, une palpation des seins et elle vous dit je sens quelque chose. Et plus tard, vous irez consulter votre oncologue et votre oncologue tâtera lui aussi vos seins et il dira mais on sent rien. Elle n'est pas palpable, votre tumeur. Elle est visible à la mammographie, mais elle n'est pas palpable. Comment est-ce qu'elle a fait? Devine votre gynécologue.
Bien, je pense qu'elle a eu sur ce coup-là, c'est vraiment quelque chose de l'ordre de l'intuition. C'est presque un peu mystérieux.
Vous lui avez dit ?
Oui, je lui ai dit et elle était, d'ailleurs quand je lui ai dit, elle est devenue toute blanche, elle m'a dit mince, c'est vraiment incroyable, elle m'a sauvé la vie, mais c'était une pure intuition je pense.
Pourquoi est-ce que vous mettez de moi avant de faire parce cette fichue mammographie ?
Parce que justement elle a pas eu, elle m'a pas dit oui j'ai un doute, je pense que c'était vraiment... Elle n'a pas mis d'urgence dans ce qu'elle m'a dit, en fait.
Alors, face à la chimiothérapie, moi, j'ai vu toutes sortes de femmes. Mm-hmm. Il y en a qui, comme vous, s'arrêtent de travailler vraiment du jour au lendemain et consacrent tout leur temps au combat contre la maladie. Il y en a qui ne le disent à personne, qui font leur chimio le matin et qui, à midi, sont au boulot, qui bossent tout l'après-midi, qui font comme si de rien n'était. Est-ce que vous avez eu le choix?
Non, moi j'ai pas eu le choix parce que juste après la chimio, pendant une semaine, j'ai été complètement abrutie en fait. J'avais des migraines terribles, mais en fait l'oncologue m'a dit que c'était pas à cause de la chimio, mais que j'étais très allergique aux antivomitifs.
Oui.
Mais c'était impossible de retirer les antivomitifs, sinon on a trop de nausées. Donc en fait, je ne supportais pas ce médicament qu'elle ne pouvait pas retirer et qui me donnait d'affreux vertiges et migraines. Et j'étais couchée pendant une semaine.
Donc vous ne travaillez pas du tout pendant toute la durée des chimios ?
Non, pas du tout.
Ce qui passe bien dans votre boulot, ça, vous n'en parlez pas ?
En fait, ma boss comme moi, elle n'a pas eu vraiment le choix. Hein. Mais moi, j'étais très angoissée à l'idée de... En fait, au début, j'ai pensé...
Je vais perdre mon job.
Non, pas du tout. Au début, je pensais que j'allais pouvoir travailler, moi.
Oui.
C'est après la première chimio que je me suis rendu compte que ça n'allait pas être possible. Puis j'ai eu beaucoup d'effets secondaires. La mucite, enfin, j'ai eu... une otropénie, une mucite, j'aurais vraiment pas pu travailler. Donc, et ma boss, oui, non, elle a été comme moi, elle a pas eu le choix. Et c'est vrai que moi, j'étais assez angoissée à l'idée d'être inactive, en fait. C'est pour ça que j'ai écrit un livre.
Oui. Pour vous l'avez écrit pendant ?
Oui, je l'ai écrit pendant la chimiothérapie.
Comme un journal de bord.
Exactement.
Ouais. Pourquoi est-ce que vous allez chez maman ? Ça, c'est un passage qui me surprend. L'idée que je m'étais fait de vous, mais sans vous connaître, ouais. Hein, parce qu'on lit votre livre, on croit que. En vérité, on ne connaît pas les gens en lisant un livre, sinon ça serait trop simple. Mais alors là, ça c'est un point, je me suis dit, elle n'a pas une tête à aller chez maman après chaque chimio.
Parce que je pouvais pas faire grand-chose, en fait, donc c'est vrai que...
L'envie de cocooning.
Ouais, peut-être, oui.
Ouais. Le retour au Havre.
Oui, le retour au Havre. Ouais.
Vous qui êtes place des Victoires dans le monde de la mode. Enfin, c'est bon, c'était nécessaire.
Oui.
La scène de la perruque. Alors bon, la scène de la perruque, c'est vraiment une particularité dans votre histoire. Ça ne doit pas arriver à beaucoup de femmes.
Non, j'ai eu vraiment... j'ai été chanceuse.
Ouais. Vous le connaissiez, donc, ce John Nollet ?
Je le connaissais de nom, mais je l'avais jamais rencontré.
Ouais. Donc, ce John Nollet a un cabinet, enfin, un atelier de perruques et de coiffure qui se trouve dans un grand hôtel à Paris, dans
oui,
une suite.
Oui, tout à fait. Ouais. Ouais, c'est son salon de coiffure. C'est là qu'il reçoit ses clientes, de nombreuses stars, hein, ouais. Des actrices.
Et donc, il fait des perruques pour le cinéma.
Tout à fait. Il ne fait pas des perruques médicalisées. Et puis, de toute façon, il n'en fait pas vraiment. En fait, c'était particulier. C'est mon ami qui l'a appelé pour lui demander ça comme un service. Mais à la base, non, il n'est pas spécialisé. Il ne fait pas du tout de perruques de ce type. Donc, j'ai eu une sublime perruque qui était plus une perruque de cinéma, tout à fait, qu'une perruque qu'on a l'habitude de voir. D'ailleurs, ça ne se voyait pas du tout que je portais une perruque.
Une perruque du commerce, c'était impensable.
Non, c'était compliqué parce qu'on voit tout de suite qu'on porte une perruque. Et ouais. Moi, je ne voulais pas que ça se voit du tout.
Ouais.
Je ne pouvais pas sortir dans la rue avec... Je voulais que personne ne le remarque.
Alors cela dit, c'est intéressant. Évidemment, ça n'est pas offert à tout le monde. Ça vaut plusieurs milliers d'euros,
une
perruque comme celle-là.
Oui, oui.
Sont vos copines qui se sont cotisées pour vous la payer ?
Oui, 40 personnes.
40 personnes ?
Ouais.
Ah oui, c'est du crowdfunding.
Ils ont fait une grosse cagnotte.
Ouais. Mais en même temps, on voit que ça résout une partie du problème. Parce que, à vous lire, on a le sentiment que ça allégeait le poids de la chimio. Cette belle perruque.
C'est vrai qu'il y a, il y a beaucoup de problèmes quand on a un cancer, évidemment. Et il y a plein d'effets secondaires, mais pour moi, et des effets qui sont parfois douloureux. Mais pour moi, la plus grande terreur et la plus grande souffrance, c'était celle de perdre mes cheveux.
Et donc, le fait d'avoir, de manière quasi unique en France, peut-être la seule femme cette année qui a eu une belle perruque dans toute la France, peut-être qu'il y en a 10, mais pas plus. Vous pensez que ça a changé votre rapport à la maladie ? Par rapport à une femme qui n'a pas les moyens de se payer du tout de perruque,
oui, donc, moi, je pense que c'est pas
foulard.
Je pense que c'est pas du tout superficiel, quand on a un cancer du sein, de penser à ses cheveux, parce que c'est comme ça aussi qu'on a l'impression de rester... une femme, de rester en bonne santé, de pas trop se désocialiser. Et
Oui, ça a soulagé.
Oui, ça a soulagé
une partie, en tout cas. Parce
oui.
que quand même, vous avez repris la drague avec la perruque.
Oui.
C'est vous dire à quel point ça...
C'est pas facile, parce que ça tient pas très bien, mais...
Ça gratte pas. Tout à l'heure, on me disait, oh, les perruques, c'est horrible, ça gratte. Non, ça gratte pas.
si, mais je mettais en fait, ils vendent des petits, comme dans une matière de collant pour les jambes, mais on le porte sur sa tête.
D'accord.
Et on met la perruque par-dessus. Et là, ça gratte pas, tout à fait.
Entre la,
exactement.
La perruque. Alors, ces tentatives de renouer avec les hommes pendant la chimiothérapie.
Ouais, sans doute un désir de survie, en fait. Un instinct de survie, je pense.
Vérifier que ça marche encore.
Oui, que je plais encore, en fait.
Et ça marche, ça. C'est-à-dire, vous pouvez plaire.
Oui, oui, je pouvais plaire, mais quand même, il y a plusieurs plusieurs eu plus il y a eu des rendez-vous avortés, on va dire. Oui. Les garçons quand même à qui ça fait peur, le cancer du sein.
Il y en a deux qui ont été d'une lâcheté incroyable.
Ouais.
Enfin, au moins deux. Moi, j'en ai raconté
oui,
deux. Il y en a
voilà,
peut-être plus. Il y en a eu
d'autres. Au moins deux.
Au moins deux.
Non, j'ai pas eu beaucoup de.
Est-ce que vous avez eu l'occasion d'ailleurs d'en reparler avec eux? Parce que, sur le moment, évidemment, il n'y a rien de pire que, de toute façon, il n'y a rien de pire que se prendre un vent. Hein, d'avoir un rendez-vous qui avorte, c'est insupportable.
Oui, oui.
Mais puisque vous avez pris la peine de leur dire à tous les deux, je suis malade, mais néanmoins, j'ai envie de te voir. Et que le type vient pas. C'est-à-dire, il y en a même un qui vous dit, j'arrive, je serai là dans une heure, j'ai un peu de retard, j'arrive, et puis finalement, il vient pas. Vous avez eu l'occasion de parler avec eux de cette incroyable lâcheté?
Non, pas du tout. Enfin, il y en a un que j'ai jamais revu, et puis un autre que j'ai revu, mais non, je.
Pas envie d'aller dans.
Non, on n'a pas parlé.
Dans une discussion, ils sont d'une incroyable lâcheté.
Bah, beaucoup d'hommes, d'ailleurs, il y a plein d'hommes qui quittent, enfin, pas tous, bien sûr, mais il y a des femmes qui, en plus du cancer, doivent vivre une rupture, ce que je trouve, mais terrible, en fait.
Oui, enfin, en même temps, c'est la vérité qui surgit.
Oui.
C'était pas de l'amour.
C'est vrai que, je sais pas. Parce qu'on dit, oui, on se marie pour le meilleur et
pour le pire,
normalement. Pour le pire, mais... Ouais.
Pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à refaire le même métier? Ça, j'aimerais vraiment que vous me l'expliquiez. Vous revenez donc dans cette agence pour laquelle vous travaillez.
Oui.
Et pendant un an, vous essayez.
En fait, je ne sais pas si c'est le métier ou si c'était plus le fait d'être salarié que je n'ai pas supporté. Parce que j'ai découvert quand même quelque chose d'incroyable pendant cette période. C'était la liberté, en fait. De plus avoir de contraintes d'horaire ou d'avoir de boss. Et quand je suis revenue au bureau, j'avais du mal à ce qu'on me dit de faire 10h, 19h et qu'on me donne des ordres, en fait. Donc j'ai eu... et puis ça m'a donné de l'élan, en fait. Ça m'a
fait d'être passé par-dessus la maladie.
Ça m'a donné une force émancipatoire, je dirais.
Ouais.
J'ai eu envie de monter. J'avais pas du tout l'esprit entrepreneur, en fait, avant. Et ça m'a donné une force nouvelle et j'ai décidé de monter, de travailler. Et
vous décidez de plus être salarié, donc vous devenez auto-entrepreneuse.
Tout à fait.
Vous créez un site internet. Vous avez l'ambition, vous me l'avez dit, prochainement d'ouvrir des chambres d'hôtes au Maroc.
Oui, j'aimerais,
à Marrakech. Donc c'est une autre vie, une vie plus indépendante où vous autogérez vous-même à votre rythme. Mais vous quittez quand même votre milieu aussi. Il n'y a pas que le boulot que vous quittez,
c'est le milieu
de la mode.
Oui.
Pourquoi?
Parce que quand je suis revenue au bureau, et c'est vrai qu'on me demandait d'en faire des shoppings de jeans ou de culottes, et ça me paraissait vraiment...
Futile.
Ouais, futile, superficiel. Et... Donc non, j'avais plus envie de travailler dans ce milieu.
On a presque l'impression, au bout de cette histoire, que cette expérience extrêmement dure que vous avez vécue, mais qu'au fond, vous n'êtes pas la seule à vivre. C'est-à-dire qu'il y a, peut-être que ça compte, ça, de se dire on est... Une sur huit à vivre ça. On a l'impression que ça vous a ouvert les yeux, au fond, sur la vie,
tout court. Oui, complètement, oui. Et même par rapport aux garçons, maintenant, ça ne m'intéresse plus du tout. Je m'intéresse plus du tout. Non, mais c'est vrai, hein, je fais beaucoup de sport, je nage tous les jours, je vais à la salle. J'ai vraiment d'autres... centre d'intérêt, en fait.
Ça fait penser à cette expression, que je ne sais pas si vous avez eu des grands-parents qui vous disaient ça, mais moi qui suis un peu plus vieux que vous, ils disaient une bonne petite guéguerre, ça fait du bien dans la vie. En gros, vivre quelque chose de dur, une épreuve de difficile, c'est une expérience utile pour la suite. Et c'est un peu l'impression qui se dégage de votre récit.
Oui, je pense, parce que si je n'étais pas tombée malade, je serais sans doute toujours restée au bureau, en fait. J'aurais continué de mener... la vie que j'avais avant, et maintenant je suis très heureuse d'avoir changé de vie. Je suis très heureuse de la vie que je mène aujourd'hui. Je me sens beaucoup plus libre.
Vous avez coupé avec vos amis d'avant?
Non.
Ou une bonne partie de vos amis d'avant? Ils
non.
sont restés?
Oui.
Ouais.
Ouais, non, en revanche, non, j'ai toujours les mêmes amis. Surtout qu'ils ont été vraiment très très présents pendant que j'étais malade.
Parce que pendant que vous êtes malade, il y a des moments où vous voulez voir personne. Personne, c'est personne? Ou ces personnes, sauf Anne-Charlotte, sauf...
Oui, voilà, non, c'était ça. J'avais un cercle restreint. Donc oui, effectivement, sauf Anne-Charlotte et Chloé, des amis que j'avais au téléphone chaque jour, en fait, qui venait me rendre visite. Donc, c'est un cercle restreint, on va dire.
C'est organisé comment, vos cercles d'amitié? Il y a un cercle très serré qui ressemble un peu à quelque chose qu'on pourrait appeler par ailleurs la famille?
Oui, voilà, c'est ça, ouais, avec une dizaine d'amis très proches. Et aujourd'hui encore,
on les perd pas.
Non. Non.
Alors, vous avez eu la chance de conserver votre sein?
Oui.
Hein, c'est-à-dire
c'est vrai.
Il n'y a pas eu d'ablation?
Non, parce qu'elle mesurait 2 cm la tumeur, donc ils ont pu conserver mon sein.
Oui. Est-ce que ça change quelque chose, ça? Même si vous
me dites
que les garçons, depuis.
de quoi, moi, d'avoir gardé
d'abord,
le sein?
Oui, pour la femme que vous êtes, pour la séductrice.
Je pense que c'est terrible pour les femmes qui doivent subir la perte, l'ablation de leur sein, plus de perdre ses cheveux et ses seins, je pense que c'est terrible. Moi, j'ai eu, entre guillemets, la chance de pouvoir garder mon sein. Donc oui, c'est très important. Au moins, on se sent pas amputé physiquement.
On se sent intègre.
Oui, c'est ça, ouais.
Votre vie d'aujourd'hui, vous pensez qu'elle est arrêtée là comme ça, c'est-à-dire qu'elle est posée comme ça, très calme, ou vous gardez dans un coin de votre tête la possibilité de repartir un peu en vrille?
Non, je crois pas. Non,
passer la quarantaine.
Non, c'est plus calme. Et ça, aujourd'hui, en tout cas, c'est un rythme qui me convient. Je travaille beaucoup moins qu'avant. Je consacre plus de temps à me promener, à profiter de la vie, on va dire.
Est-ce que votre cancer était une sorte, ce que je vais dire là est une hypothèse, hein, ne croyez pas que, est une sorte de punition pour la vie polissonne que vous meniez avant?
Oh non, je pense pas.
Parce que vous buviez aussi.
Oui, mais bon.
Ah, mais bon.
Mais c'est vrai que j'ai une hygiène de vie et aujourd'hui, je mange beaucoup plus healthy, moins de junk food et puis je bois beaucoup moins d'alcool, ça c'est sûr. Toujours, mais en disant que maintenant c'est en quantité très raisonnable, un petit verre de vin pendant un dîner.
Mais pas plus.
Non, voilà.
Ouais, pas tous les soirs.
Non, pas tous les soirs.
Au bistrot avec les copains
et
les copines.
Non, ça c'est fini.
Qu'est-ce que ça change dans une vie d'avoir tout raconté dans un livre? Parce que les gens le lisent.
Oui, mais je pense. Bah déjà, je suis très contente parce que j'ai beaucoup de témoignages de femmes qui sont malades et qui me remercient de leur donner de la force. Et puis, je suis contente. Je suis fière de moi. Je suis allée jusqu'au bout en fait parce que j'étais malade et il y a plein de gens qui m'ont dit ah tu veux écrire un livre mais
t'iras
pas au bout. Donc voilà, aujourd'hui, je suis fière d'avoir été au bout de mon idée.
Ce livre s'appelle Les cheveux dont je rêvais. Il est édité chez Max Milo. Merci beaucoup, Marjorie, d'avoir partagé cette expérience avec nous.